Grand Angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, c'est le grand angle de ce jour. L'Iran a déclaré ce vendredi complètement ouvert le très stratégique détroit d'Ormuz. Cela tant que durera la trêve au Moyen-Orient. De son côté, le président des États-Unis affirme que le blocus mis en place par Washington sur les ports iraniens restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord avec l'Iran. Donald Trump, qui a salué l'annonce par Téhéran de l'ouverture totale du détroit d'Ormuz. Avec nous, David Rigoulet-Rose. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'ASMENA, chercheur à l'IFAS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le détroit d'Ormuz est devenu le cœur névralgique de cette guerre au Moyen-Orient et nous dire ce qu'il représente?
Le détroit d'Ormuz est la jugulaire principale des flux maritimes mondiaux. Et il peut faire office de détroit jumeau avec le détroit du Bab el-Mandeb sur de l'autre côté de la péninsule arabique qui donne sur la mer Rouge et avec le canal de Suez pour l'accès à la Méditerranée. Donc effectivement, ce sont des détroits stratégiques. Ils bénéficient d'un statut qui est celui de la liberté de navigation, qui est reconnu comme un droit dans le droit de la mer, de la Convention sur le droit de la mer. Ce qui fait que, non, en principe, on ne peut pas l'obstruer. Or, le contexte de la guerre lancée par Donald Trump fin février a poussé le régime iranien à mettre à exécution une menace qui était récurrente, qui est ancienne, mais qui n'avait jamais été mise à exécution, en l'occurrence, effectivement, l'obstruction de ce détroit. Pas une fermeture physique au sens strict, mais un filtrage qui fait que la perturbation des flux maritimes est telle que, justement, ça hypothèque le commerce mondial.
Et qu'est-ce qui a fait sauter le verrou, si je puis dire? Pourquoi cette menace a été mise à exécution?
Ah, parce que dans le contexte, effectivement, des frappes, de la campagne de frappe aérienne américaine, l'Iran avait à sa disposition deux atouts. D'abord, l'arme balistique, dont elle ne s'est pas privée de se servir. Et puis, effectivement, le blocage du détroit, qui pèse, qui est une hypothèque sur le commerce mondial des hydrocarbures, mais plus largement, parce que ça ne se résume pas au seul pétrole. Il y a la question du gaz, notamment 20% du gaz mondial en provenance tout spécialement du Qatar. Et puis, il y a effectivement, en dehors de ça, il y a tout ce qui est les condensats, la plasturgie, l'aluminium. Donc on voit que ça ne se réduit pas au seul problème du pétrole. D'ailleurs, Fatih Birol, qui est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, a émis une évaluation qui a suscité des inquiétudes, puisqu'il considère aujourd'hui que les conséquences potentielles, effectivement, de la fermeture de ce détroit, de sa perturbation à grande d'échelle, seront plus importantes que le choc pétrolier, le premier choc pétrolier de 1973, le deuxième choc pétrolier de 1979 et la crise des années 2000. C'est dire que les conséquences sont potentiellement dévastatrices sur le plan de l'économie mondiale et qu'il n'y a pas seulement un effet prix qui est déjà perceptible, mais il y a également aussi le risque de rupture d'approvisionnement.
Quels sont les différents pays qui ont un pouvoir légitime sur ce détroit d'Ormuz?
Traditionnellement, le détroit d'Ormuz a deux gardiens, le sultanat d'Oman et l'Iran. Avec un partage des responsabilités pour maintenir justement la sécurité maritime et la libre circulation. Donc aujourd'hui, tous les pays sont impactés de toute façon par la décision iranienne, qui a entraîné d'ailleurs un contre-blocus de la part des Américains depuis le début de la semaine, et donc qui amplifie de toute façon les conséquences déjà préexistantes. Alors tous les pays sont concernés, mais certains plus que d'autres. Sur le plan des hydrocarbures, ça affecte tout particulièrement les pays d'Asie. Et puis, évidemment, la Chine, qui est le principal client, en réalité, qui achète 80% du pétrole iranien décoté, mais qui permet à l'Iran d'avoir des rentrées financières. Et d'ailleurs, on peut noter que concernant le blocus fait par, enfin l'obstruction faite par l'Iran, ça n'empêchait pas l'Iran de faire sortir ses propres pétroliers de manière continue. alors même que les autres navires étaient évidemment on leur imposait effectivement d'être bloqués. Donc c'est l'Achille évidemment est concernée. Elle l'est d'autant plus que son vrai premier client n'est pas l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite qui ne peut plus faire sortir non plus son pétrole à l'exception d'une partie via un oléoduc qui donne sur le port de Yanbu, mais qui n'est pas à destination directe de l'Asie et de la Chine en particulier. Et puis il y a les grands pays et consommateurs comme l'Inde notamment, et puis les Européens bien sûr, même s'ils ne sont pas directement dépendants du pétrole du Golfe, tout ce qui concerne le gaz est une variable fondamentale, ce qui fait dire d'ailleurs que ce n'est pas seulement un choc pétrolier, mais c'est un choc aussi gazier, et il est d'autant plus important pour les Européens que les Européens ont fait le choix de se couper des hydrocarbures russes du fait de l'invasion de l'Ukraine. Donc il y a une fragilisation de toute façon systémique qui est à l'œuvre et qui a d'autres conséquences, notamment avec la question des intrants chimiques qui sont aussi concernés et qui risquent d'affecter à brève échéance les pays d'Afrique.
Vous avez cité Oman, le rôle d'Oman. Oman qui est un lieu connu notamment pour l'accueil de ces pourparlers internationaux. Est-ce que cela peut avoir un impact dans ce conflit ?
De manière moins évidente que précédemment, vous évoquez le fait qu'Oman effectivement a toujours eu un rôle de médiation. Qu'il a su cultiver, puisque Oran n'est pas d'obédience sunnite ni chiite, il est ibadite. Il y a une tradition d'équilibre de la diplomatie omanaise qui fait souvent figure de Suisse du Moyen-Orient, Mascate étant assimilée à une forme de Genève. Le problème, c'est que Oman s'est retrouvé dans la tempête du Golfe, si j'ose dire, et a même fait l'objet de ciblage de la part des Iraniens, accidentels ou non, mais qui ont affecté ces sites pétroliers. Le problème d'Oman, c'est que sa plus-value s'est trouvée dégradée dans le contexte effectivement de l'agenda militaire qui était à l'œuvre. Ce qui explique aussi l'émergence d'autres interlocuteurs et notamment du Pakistan.
Cette annonce importante de Donald Trump, une annonce qui est intervenue ce jeudi soir, le président des États-Unis qui a annoncé la mise en place d'un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, cela depuis ce jeudi à 23h heure de Paris. Je viens d'avoir d'excellentes conversations avec le très respecté président Joseph Aoun du Liban et le Premier ministre Benjamin Netanyahou d'Israël. Voilà les propos de Donald Trump sur son réseau social. C'est un tournant majeur dans ce conflit.
Concernant le problème du Liban, dès le début, Donald Trump, et ça a été confirmé d'ailleurs par la voix de J.D. Vance, avait dissocié le théâtre libanais des négociations entre Américains et Iraniens, en dépit du fait que l'Iran voulait justement intégrer un cessez-le-feu libanais dans les négociations, et ça n'a pas été le cas dans l'immédiat. Ce qui a expliqué qu'aujourd'hui encore, vous avez une déclaration de Mohamed Khalibaf, qui est le chef de la délégation iranienne qui a négocié à Islamabad, qui disait que le Hezbollah est indissociable de l'Iran. On voit bien que effectivement le processus qui s'ouvre, qui est inédit par son ampleur, puisqu'il y a eu une réunion entre ambassadeurs à Washington, et puis les rumeurs effectivement de communication directe entre le Premier ministre, attendu en tout cas entre le Premier ministre israélien et le président Aoun, même s'il y a un jeu d'ombre évidemment derrière, parce qu'il y a le spectre du Hezbollah qui pèse, qui a refusé la légitimité de ces négociations en face à face direct. Mais quelque chose est incontestablement en train de se passer, c'est justement les Libanais attendent avec impatience une perspective qui les permettrait de sortir effectivement des affres du conflit qui a été initié dans le sud Liban.
Merci David Rigoulet-Rose.
Merci.
Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IFAS, le rédacteur en chef également de la revue Orient Stratégique. Un grand merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.